Canalem, on aime l'été. Bonjour les amis, je viens seulement, oui, de voir cette petite pancarte là dans mon dos qui dit « Défense de nourrir les techniciens de... » J'ai toujours dit que ça ressemblait à un aquarium, ça je suis sûre qu'il m'a déjà entendu. Bonjour les amis, Clotilde Seille en votre compagnie pour vous présenter Aime l'été et je suis avec...
Emmanuel Robitaille au micro avec toi, très heureuse de te retrouver en ce mardi 10 juillet.
On est le combien?
Méditation, as-tu remarqué?
Et quand je fais la feuille de route, c'est une horreur, j'ai l'impression que je...
Mais l'été, on perd un peu la notion du temps.
Alors aujourd'hui à l'émission, mes amis, avec Emmanuel, avec toi, on va parler poids, indice de masse corporelle, calcul de calories, tout ce qu'on aime.
Absolument, on sera en entrevue également avec Guylain Levasseur, un itinérant au service des itinérants.
Benoît Raux nous présente les attractions touristiques de sa chère ville de Victoriaville.
Un autre Benoît Racette, cette fois nous offre lui sa chronique Sociopop, consacrée aujourd'hui au modèle médical versus le modèle social pour expliquer le handicap.
Et puis Maxime Despomerleau va nous présenter sa chronique culturelle et nous donner le goût d'aller au cirque.
Et Hélène Gauthier du SQLA nous donne le goût de nous mettre des livres plein les oreilles. Bienvenue à Aime l'été.
Où sont-elles les baigneuses qui troublaient le cœur de Renoir? Les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir. Ces beautés ont des sublimes, non plus courts, nous vivons sous le régime du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme Régine, on dit plus maigre comme un clou. Cette chanson, parole et musique hypocalorique est faite pour vous. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage, les pâtes au gratin. Le riz au lait, le rivo, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le chevret, chambertin.
Aïe, aïe, aïe.
Parce que c'est beau d'être bien dans sa peau, réveillons, cotillons, serpentin. Chantons tous sur ces quelques mètres, jus de carottes et les jours sans brin. Ont-ils seront des squelettes, des fantômes, des purs esprits? Hommelais et femmelettes se feront peut-être encore en vie. Et l'on entendra les couples dans le cliquetis des eaux. Se dira comme on est souple, se dira comme on est beau. Mais quand on mangeait de la soupe, on se tenait quand même plus chaud. Cette chanson sans aucun copain, tu la chanteras sans doute avec moi. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le ribot, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le chevret, chambertin. Et faut se priver de faisant, de parmesan, de ragoût, de goulash et de frites. Arrêtez les pastels, le rhum sec, le vin cuit, les grandes et les cuites. Les cornichons de Dijon, Bigorneau, Concarneau et le mou du matou. Faut supprimer le pistou, la pistache, les poutous, il faut supprimer tout. Et le livreton, les moutons, les croutons, la choucroute et les touffes, les chrétiens. La paella, la pizza, les petits pois, la vodka, les pauvres. La poule au pot, les tripots, les impôts, les petits roux, les confus, les potins. Et le radada, les dodo, les papas, les bobos, les citrons, les pépins. C'est beau d'être bien dans sa peau, réveillons, cotillons, serpentins. C'est toujours à la diète, au jus de chaussettes, au jus de cailloux. Cette chanson, parole et musique hypocalorique est faite pour vous.
Si ça n'est pas vous amener sur un plateau, ça, Manuel, Emmanuel, vraiment, je pense que non, ça ne marchera jamais.
On ne le fera plus.
La chanson hypocalorique, c'était chantée par Alice Donna et ça nous amène vers le sujet du jour d'Emmanuel.
Mais tout à fait, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de poids. Pas les poids mangent tout, non. Notre poids, notre poids, bien sûr, celui qu'on l'on pèse, et également de nouvelle alimentation qui vient d'émerger. Et
allons
qui
bon.
Tend à prendre de l'ampleur. Je garde le suspense.
Ah, justement, l'ampleur, ça pour va le sujet mais... dont on parle.
Oh, il y a quelqu'un qui vient d'arriver en régie comme ça. On salue François, d'ailleurs, qui est en régie. Donc, pour commencer, Clotilde, oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu as calculé ton IMC, c'est-à-dire ton indice de masse corporelle.
Non. D'ailleurs, je ne l'ai jamais calculé parce que j'ai toujours considéré que c'était de la...
C'est vrai? Ben, c'est une bonne nouvelle si ça fait longtemps ou si tu ne l'as jamais calculé. Même chose à la maison, ceux qui nous écoutent, si ça fait longtemps que vous n'avez pas calculé votre indice de masse corporelle ou si encore, ce n'était pas à votre goût, mettons, on va le dire demain.
Ouais.
L'indice de masse corporelle est erroné.
Et oui. dépassé
Mais oui.
comme méthode pour calculer notre poids santé. Rapidement, l'IMC, c'est quoi? C'est le calcul qu'on fait à partir de notre poids en fonction de notre grandeur. Ça nous donne donc une fenêtre dans laquelle on peut être en santé, avoir un poids santé, être obèse ou en dessous d'un poids santé. Grosso modo, un indice entre 18,5 et 25. Non, non, mais...
Non, je le sais, ça m'a toujours fait rire.
Et les médecins l'utilisent.
Mais oui, mais oui.
L'utilisent ou zé, on le sait pas, mais entre 18,5 et 25, c'est un poids santé. Donc, si moi, qui mesure 5 pieds, limite, je me le donne, mettons.
OK.
5 pieds, je pourrais peser...
Oui.
95 livres et être dans mon poids santé. Et ça, c'est 25 livres de moins que ce que je pèse actuellement. Si vous n'avez pas en tête mon visage, si vous ne savez pas qui vous parle présentement, sincèrement, là, je vous invite à aller sur le canalem.vusezvoix.com, section animateur. Vous allez comprendre le non-sens que de m'enlever 25 livres. J'aurais la peau sur les os, j'aurais l'air complètement malade et je le serais probablement. Je vais vous l'annoncer, là. Ça fait vraiment aucun sens parce qu'il ne prend pas en compte cet indice-là, la différence du gras et des muscles, premièrement, dans le poids total de la personne, ni leur proportion, incluant les os également. Aucune dissociation est faite dans ce qui compose ce que l'on pèse.
Mais même aussi ce qu'ils font, leurs activités. T'imagines si vous demandez à un bûcheron, par exemple, son indice de masse corporelle.
C'est ridicule.
Mais c'est absolument ridicule. Je veux dire, quelle est l'activité de la personne?
Et non seulement entre le muscle et le gras, parce que tu l'as nommé, l'activité va définir,
nous définir ou pas.
Mais c'est le type de gras également est important. C'est pas tout d'avoir du goût de dire j'ai du gras ou j'ai tant de pourcents de gras ou whatever, parce que la distribution du gras, l'endroit où elle est un grand indicateur de la santé. Du gras autour des organes, là, c'est un grand risque de diabète qui est présent et j'en passe. Et l'étude qui a été faite sur l'indice de masse corporelle démontre que 30 % des individus avec un IMC santé ne l'étaient pas du tout. Ça, c'est une personne sur trois. Dans des études, ça passe pas. Là. Je ne sais pas si tu sais.
Oui.
Et 11 % des gens qualifiés comme faisant de l'embonpoint, avait une excellente santé.
Santé, absolument.
Ça ne prend pas non plus le sexe et l'âge en compte. On sait que les femmes ont beaucoup plus de cellules adipeuses,
l'hérédité.
Beaucoup plus de gras, l'hérédité, beaucoup de choses. Donc, méthode fiable, y en a-t-il une pour savoir si on est en santé?
Ben, quand vous vous levez le matin, posez-vous le pied, quand vous mettez le pied par terre, comment je file? Non, mais... J'ai l'air niaiseuse en disant ça, mais c'est pas pour l'être. Parce que, écoute ton corps, on dit ça depuis longtemps. Et souvent, malheureusement, on est trop rendu ou sur Internet ou chez son médecin. On le sait quand ça va pas bien, on le sait.
Sens-tu
qu'il
y a une déresponsabilisation de notre propre santé?
Ben absolument.
J'irai un petit peu en ton sens.
Ah ben oui,
Avec une, c'est pas généralisé, mais effectivement, se reprendre, de s'écouter, d'y aller avec notre senti. Si jamais vous avez de la difficulté à faire et que vous avez besoin d'observer quelque chose, la mesure du tour de taille, très bon indicateur, parce que les potentiels gras abdominaux, donc, c'est les gras les plus dangereux pour votre santé.
Et encore, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont du gras abdominal et qui vont très bien.
Oh, ça, c'est certain.
Tu sais, moi, je le dis toujours, les cimetières sont pleins de cadavres en bonne santé. Sauf qu'ils sont morts. mais tu comprends, je veux dire, ces gens-là faisaient attention à tout.
Je la connaissais pas.
Mais... ben, elle est de moi. J'en suis très fière.
Ben, merci de l'avoir partagée. Mais ce qu'on sait, puis on l'a nommé, c'est ressentir notre senti, comment on va, et surtout de conserver des bonnes habitudes de vie, y aller avec notre gros bon sens et bien manger. Et si on regarde la qualité de la nourriture ingérée, je vous parle, après le végétarisme, le végétalisme, d'un nouveau régime alimentaire.
Alors ça, j'ai hâte. Alors, allez-y.
Le péganisme.
Allons-y.
C'est le docteur américain Mark Hyman qui en a parlé de ça. Et c'est un mélange de la diète paléolithique et du végétalisme, ce qui assurait un équilibre. Donc, qu'est-ce que la diète paléolithique? tu me demanderas.
Oui.
Je t'entends.
Ah non, je le sais.
Je t'entends.
Ça, je le sais.
C'est vrai?
C'est
je ne savais pas.
Ah oui, non, non, oui, moi, je le sais. C'est uniquement des légumineuses, tout ce qui est noix,
viande
tout ce
maigre.
Qui est...
Poisson, noix, ouais. graines,
ouais,
aucun produit laitier,
non,
ni de
ça.
Sucre, ni de céréales, parce que ça n'existait pas. Et le végétalisme...
À l'époque du paléolithisme.
Bannir tout produit issu des animaux jusqu'aux œufs, jusqu'au beurre. Ça semble plutôt incompatible, comme ça, pas tant que ça. 75 % de fruits et légumes qu'il faudrait manger, de la viande maigre biologique nourrie à l'herbe, noix et graines pour les protéines et les matières grasses, sésame, lin, chanvre, citrouille, huile d'avocat et poisson gras, sardines, saumon sauvage, des céréales complètes et des légumineuses avec modération. Ce qu'il faut éviter si on veut aller vers le péganisme, soya, produits laitiers, gluten, sucre et aliments transformés, bien sûr. Les bénéfices, perte de poids, diminution du mauvais cholestérol et ça réduit également les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires. Mm-hmm. Pour ceux qui ne savaient plus trop où aller,
c'est un beau milieu. C'est une très, très bonne idée. Merci beaucoup. Une très, très bonne idée, Emmanuel. Moi, si vous me permettez, je vais juste conclure sur une chose. C'est que finalement, là, maintenant, on s'est aperçu que le paléo, machin, ça valait pas de la chenoute. On s'est aperçu que les poissons, souvent, ils sont tellement pollués qu'il ne faut pas en manger
tout
trop.
À fait.
On s'est aperçu que les fibres, finalement, ça ne faisait pas à tout le monde et j'en sais quelque chose. Moralité, vous savez quoi pour moi ce que c'est manger sain? La meilleure définition de manger sain, c'est manger donc ce qui vous fait plaisir. À un moment donné, votre corps, il va avoir envie de salade.
Dors, Novan, je suis couché sur mon grand lit. Du coin de mon œil, par la fenêtre, je vois l'hôpital. Je suis pas capable de croire qu'il faut que je m'arrête ici. Je suis tout seul. De toute façon, ça me fait trop mal. Mon corps, c'est un pays en guerre, sur le point de finir. Le général de l'armée de terre s'attend au pire. J'ai faim, j'ai frette, je suis trop faible pour me lever de bout. On va hisser le drapeau blanc, un point c'est tout. J'entends le téléphone qui hurle, j'ai des amis. Je voudrais tellement pouvoir me lever pour leur parler, leur dire allô, c'est moi, je suis correct. J'suis toujours en vie. La planète tourne. Elle est pas supposée tourner sans moi. Mon ennemi est arrogant et silencieux. Il se calisse bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux. Il est sûr de lui, il est méthodique. Il prend son temps. Il est au service de la mort. Il connaît pas les sentiments. Je vais commencer mon autre vie de la même façon. Je vais avoir de l'instinct, je vais rester fidèle à mon style. L'entente parfaite entre mon cœur et ma raison. L'harmonica, c'est pas un violon, c'est pas éternel. Et puis ça pleure comme si c'était conscient de son sort. D'ailleurs, à soir, je me permets de pleurer avec elle. J'attends un peu, je suis pas pressé, j'attends la mort.
Cette musique, je vous l'avais peut-être reconnue, Dehors Novembre, bien sûr, notre amie disparue des colloques. Et là, j'ai un blanc de mémoire, comme ça m'arrive de plus en plus souvent.
Et de Dédé Fortin.
Dédé Fortin, merci mon ami. Dehors
Novembre, qui est une de mes chansons préférées.
C'est vrai, c'est vrai. Oh, oui. Et si je l'ai choisie aujourd'hui, ce n'est vraiment pas par hasard. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui a créé... est-ce qu'on peut appeler ça un organisme? Sûrement pas. Une cellule d'aide, beaucoup plus sûrement, qui s'appelle Dehors Novembre. J'habite dans le village, ici, à Montréal, et donc je me déplace souvent sur la rue Sainte-Catherine, et je passais souvent devant une camionnette, une van, stationnée sur un parcomètre. D'ailleurs, je me demandais souvent comment ils faisaient pour se stationner là, vu l'argent que ça génère, mm-hmm. etc. Et je me suis dit que ça nécessite... Voilà. Et je me suis un jour approché de lui et j'ai fait sa connaissance et je lui ai dit « Je veux que vous veniez à mon émission ». Il est là aujourd'hui. Guylain Levasseur, bonjour.
Bonjour.
Guylain, je voudrais qu'on commence par le commencement. D'où êtes-vous? Qui êtes-vous?
Moi, je suis un natif des Bois-Francs.
Oui.
C'est du coin de Princeville, qui est à côté de Victoriaville.
Avec puis... notre ami Benoît, qu'on va avoir tantôt. Et en
puis, c'est ça, on est arrivé en 76 à Laval.
Oui.
Puis moi, en 99, je suis déménagé à Montréal. Mm-hmm. Depuis 99, je suis à Montréal. Puis les cinq dernières années, j'ai fait de l'aide.
Ouais.
En itinérance, aider quelques-uns. Mais c'était pas aussi intense que celle-là, la dernière
en
année que j'ai ouvert la machine.
OK, mais pourquoi, je veux dire, il y a une raison précise. Vous-même, vous avez vécu
oui.
l'itinérance.
Oui.
Vous avez vécu... ce qu'on peut appeler l'enfer, c'est-à-dire
oui.
Les substances de toutes
oui.
sortes, hein, tout ce
oui.
qui va avec l'itinérance. Aujourd'hui, vous ne touchez plus rien.
Non.
Vous avez abandonné complètement alcool, drogue...
Alcool, c'est occasionnellement.
Occasionnellement.
C'est rare, c'est très rare.
C'est très rare.
À cette heure, c'est pour la déguster.
Ah, c'est bien. Bon. Non, c'est ça. Donc, parce que je voudrais insister là-dessus.
Oui.
Et à un moment donné... qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic dans votre tête pour que vous disiez « qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Parce qu'on va en parler, mais le gouvernement ne fait quasiment rien, les oui. gens s'en foutent de plus en plus.
Oui.
Qu'est-ce qui a été votre déclic, Guylain?
Moi, mon déclic, c'est quand j'en ai vu quelques-uns qui avaient besoin d'aide. Là. C'était
oui.
des cas là, qui étaient repoussés par certains organismes parce que c'était trop lourd pour eux.
Ah oui.
Puis moi, je me suis...
On parle de problèmes de santé mentale.
Des problèmes de santé mentale,
comorbidité avec la consommation.
Du monde qui ne sont pas capables de gérer leur vie.
Absolument.
Sans. Mm-hmm. Comme un point tuteur, comme on dit. Comme un...
mm-hmm.
Oui, oui,
ouais.
oui.
Que j'en ai pris quelques-uns qui ont vécu chez moi pendant un an. À toi, je lui ai donné un an. Puis, aussitôt que l'année était finie, je disais bon, moi, je pars de mon côté, tu pars de ton côté. Puis, un autre bail, j'amenais quelqu'un d'autre vivre chez moi. Puis, ça a commencé de même. À un moment donné, ça a été de plus en plus. Là, après ça, j'ai eu mon camion.
Alors, le camion.
Oui.
Est-ce que c'est celui que vous avez en ce moment?
Ben non, c'était l'autre avant.
C'était l'autre avant.
L'autre qui a... Fait que là, j'ai dit à un moment donné, j'ai parlé avec quatre itinérants puis qui avait un chien. J'ai dit, avez-vous déjà voyagé un peu? Ils me disent non. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez si on prendrait un bon train d'argent chaque. On irait faire toute la côte du Nouveau-Brunswick.
Wow!
Puis aller arrêter Halifax. Fait que 2 heures avant d'arriver à Halifax, mon camion a brûlé. Fait qu'on s'est tout regardé, puis on a parti à rire. On dit, on n'arrête pas nos vacances, on continue. Fait qu'on a passé 15 jours à dormir en dessous des ponts à Halifax. J'allais voir les organismes, puis je me demandais comment que ça fonctionne, Halifax, l'itinérance. Puis là, ça a été... j'ai vu que le gouvernement donne un an de bail signé, puis donne 400 $ par mois pour la nourriture. Fait que, là, ils n'ont pas le choix, ils ont leurs appartements, là.
Pour la réinsertion sociale, oui. Pour permettre à oui. ces gens-là de retrouver une vie dite oui. normale.
Oui. Ici, c'est différent. Hein?
Ah, ici, c'est on ne règle pas l'itinérance, on la cache.
Hmm. On la déplace.
Oui, on la déplace ou on la cache.
Comme on a fait à New York, comme ben, on a fait à places, plusieurs endroits.
Il y a des places qu'on nommera pas, puis il faut qu'ils rentrent à 2 heures de l'après-midi, sinon, ils n'ont pas leur place pour dormir.
Mm-hmm.
Fait que le problème n'est pas réglé, il est caché.
Mm-hmm.
C'est oui, il y a moins d'itinérants dans la rue, mais ça ne règle pas, là.
Mm. Vous qui avez traversé une vie particulière, le passage à la rue, vous vous l'expliquez comment dans votre cas?
Ça peut être problème de santé mentale, ça peut être...
C'est pas du jour au lendemain, ça se fait graduellement, ça.
Moi, c'est comme j'appelle aussi les enfants jetables. Mm. Toi, t'es assez vieux, tu vas aller vivre ta vie, va-t'en, je te mets à la porte.
Donc, des enfants, ouais. des jeunes qui sont mis...
Il y en a qui sont vu qu'il y a des problèmes de santé mentale, les parents sont
dépourvus sont tabouites, de tout là, moyen. De tout.
Puis moi, j'ai toujours dit quelque chose à ces jeunes-là. J'ai dit, tes parents t'ont donné qu'est-ce qu'ils ont appris. Ils peuvent pas te donner qu'est-ce qu'ils ont pas appris.
Mm.
Tu sais, il y en a qui viennent de mères prostituées ou choses de même, puis ils vont donner quand même une bonne qualité de vie à leurs enfants. J'en ai vu. L'enfant a été choyé, mais la mère était dans la prostitution.
Il n'y a pas de stéréotypes, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas une ligne directrice, mais il y a quand même des tendances, des facteurs qui sont là, qui sont plus présents dans ces cas-là, du moins dans la famille.
Guylain, qu'est-ce... Bon, les gouvernements, on s'en rend compte, qu'ils soient fédéral ou provincial, ils sont comme aveugles en ce moment-là. Oui. Ça ne bouge pas beaucoup. Du moins, on fait des grandes promesses avant les élections, mais après, bon... Mais nous, humains, moi qui vis dans ce quartier-là, je me fais arrêter par des itinérants à chaque coin de rue.
Oui.
Je rêverais, Guylain, d'avoir de l'argent plein les poches et de pouvoir à chaque fois donner un 10 à l'un, un 2, etc. Est-ce que c'est ça la solution?
Non.
C'est ça.
Non. Il y a toujours du monde qui vont être à la demande d'argent.
Mais oui.
Parce que c'est un besoin, il y en a qui ont besoin de... L'argent, il y en a qui vont dormir même dans les saunas. J'en ai vu, moi, que les organismes étaient pleins. Puis le manque de place aussi, pour du côté des jeunes, on a vu ça, là. Le manque de place à dormir, le refuge déborde, le bunker déborde. Là, à un moment donné, il n'y a plus de place. Là, c'est là. Fait qu'ils viennent me voir pour des sleeping bags, puis ils dorment dans des raccoins. Là, c'est rendu qu'il y a des campements, il y a des tentes installées pour que... L'itinérant peut avoir une vie un peu normale, tu sais.
Mm-hmm.
Qu'ils peuvent aller dormir, parce qu'il y a des chaleurs de même, là, dormir dehors, là, c'est...
J'y pensais encore toute la semaine quand je les voyais. On est à plus 30 en ce moment. On va, dans 6 mois, on sera à moins 30. C'est 60 degrés d'écart sur les corps qui vivent à l'extérieur. Moi, je me dis, mais comment, mais où, mais... Enfin, c'est terrible. Moi,
j'ai réussi l'hiver, de passer l'hiver dans mon camion.
Mais c'est votre domicile?
Oui.
En ce moment, vous n'avez pas d'autre domicile que votre camion.
Parce que, regarde, un loyer, c'est 600 minimum, 600 $. Qu'est-ce qu'il reste pour manger? Il ne reste plus rien.
Oui, parce que c'est votre salaire mensuel, on va se le
dire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai aucun salaire. Je suis bénévole à 100%.
Mais c'est très important ce qu'on est en train de mentionner, parce que cet argent-là, on la donne-tu, on la donne-tu pas? Ça, c'est une question qui revient souvent. Il y a la nuit des itinérants où des personnes comme vous, comme moi, comme Clotilde, peuvent s'habiller en soute et aller dormir dans des parcs en soutien psychologique, du moins, à l'itinérance. Il y a donné de l'argent. Il y a les distributeurs qui commencent à se mettre dans des villes comme Amsterdam, comme Londres, où il y a des gants, des pommes, de la nourriture qui est bonne à manger, des sleeping bags, des choses de base, des bas qui peuvent être achetés avec des cartes magnétiques. Mais est-ce que tout ça, ça vaut quelque chose? Elle est où la responsabilité? Si rien de ça fonctionne, Parce qu'on parle du gouvernement...
Je pense que Guylain, lui, non, c'est ça, c'est une question un peu, peut-être un peu immense. Moi, j'ai l'impression que là...
Non, mais c'est important.
Ah non, ben c'est hyper important, dit, okay, mais, nous, mais je pense que Guylain, il va avoir du mal à répondre à ça. J'ai le sentiment, parce que Guylain, lui, ce qu'il voit, et moi, ce que je vois, et toi aussi, Manu, évidemment, c'est lui l'aide qu'il apporte de son camion. Ouais. Et des Guylain, ça en prendrait dans tous les quartiers, finalement.
Verdun.
À Verdun.
Verdun. Mais
pas seulement.
Pointe-Saint-Charles.
Pointe-Saint-Charles.
Il y en a de l'itinérance dans
mais
ce
oui,
coin-là.
Mais oui.
C'est un petit coin qui est un peu oublié.
Bon, Guylain, vous êtes là pour les aider à votre mesure.
Oui.
Alors, bien sûr, on va dire que c'est une goutte d'eau, mais c'est comme le billet de 5 qu'à un moment donné, on va donner dans une écuelle. Oui, c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau importante.
Important,
alors, oui. à votre niveau, on peut vous apporter, à votre camion, des objets dont on n'a plus besoin.
De l'eau.
Comme
la canicule, j'ai eu des personnes généreuses qui sont venues me porter des caisses d'eau. Fait que
ah
moi,
oui.
Qu'est-ce que je me suis arrangé avec un commerce à côté. Ils m'ont rempli ma glacière de glace, puis on a mis de l'eau, on a donné de l'eau aux itinéraires, aux personnes à faible revenu.
Oui.
Parce que je reste dans un... Où ce que je m'installe, il y a comme un édifice appartement. C'est tout du monde démuni.
Oui.
Fait que, ils viennent me voir à l'occasion. Des fois, j'ai des bâtons à donner.
Mais cet hiver, vous n'allez pas rester dans votre camion?
On va checker, on va surveiller. Parce que la façon que ça marche, si t'es plus que trois colocataires dans un appartement, ils considèrent ça comme une maison de chambre. Ils te coupent ton chèque un peu. deux personnes, t'arrives, mais ça arrive. Tu sais, la troisième personne, des fois, ça va te donner ta qualité de vie.
Mm-hmm.
D'être capable d'avoir un Internet, capable d'aller. Moi, je me suis tout débarrassé, là, j'ai plus rien. Là. Moi, j'ai été infesté de punaises de lit dans un appartement.
Mm-hmm.
Puis j'ai décidé de venir amener avec moi. Là. J'ai tout jeté au vidange.
Parce qu'il y a aussi se meubler. C'est pas tout d'avoir les quatre murs. Il faut mettre de quoi dedans. Là.
Oui, c'est ça. J'avais des beaux
moyens. Il y a le frigidaire et mettre de quoi dans le frigidaire aussi.
Oui,
là,
oui.
Là.
Et
oui.
Il y a votre chienne. Il a une chienne. Elle est importante pour vous. Hein.
Oui, ça, c'est ma fille.
C'est votre fille.
C'est la zoothérapie.
Remettez-vous d'un petit peu devant votre micro pour qu'on vous entende bien.
C'est la zoothérapie.
Oui.
Il y a des gens, des personnes de la rue qui viennent s'accoter sur Micha et qui me demandent d'aller promener Micha.
Oui.
Ça, c'est...
C'est fantastique.
C'est de l'amour
inconditionnel. Alors, vous êtes souvent à l'angle des rues Baudry et Sainte-Catherine.
Oui.
Sinon, vous êtes où?
Je peux me promener entre Hochelaga, aller jusqu'à McGill.
Bon, quand vous voyez une voiture sur laquelle il est écrit « Dehors novembre », comme la chanson des colocs, c'est là que vous allez rencontrer Guylain et sa toutoune. Guylain, c'est... moi, je vous aurais gardé une demi-heure encore, une heure. Hein, à toi aussi, hein, on est très touchés que vous soyez venu, Guylain, en studio avec nous. Et on va vous souhaiter bonne chance. Et je veux dire aux gens qui nous écoutent, hein, Manu, si vous êtes à Montréal, allez rencontrer Guylain puis apportez-lui tout ce dont tous ces itinérants ont besoin. Merci beaucoup, Guylain.
Ils ont besoin d'amour aussi.
Oui, et vous faites la différence. Merci infiniment.
Vous écoutez Aime l'été.
Bonjour à Aime l'été avec Emmanuel Robitaille et Clotilde Seille. Et dans cette section d'émission, on aura Benoît Roux qui nous présente les attractions touristiques de Victoriaville. Et un autre Benoît, oui, Benoît Racette cette fois, qui nous offre, lui, sa chronique sociopop consacrée aujourd'hui au modèle médical versus le modèle social pour expliquer le handicap. Hare, 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 ho. Hare, 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 hey.
Listen, girl, I'm not like all these other fellas. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, oh, but terror takes the sound before you make it. Yeah, you start to freeze as horror looks you right between your eyes. You're paralyzed, 'cause this is Thriller, Thriller Night, and no one's gonna
gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Hey, ladies. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. Oh, you feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination, girl. But all the while, you hear a creature creeping up behind. Oh, you're out of time. Oh, this is thriller, thriller night. And there ain't no second chance against a thing with 40 eyes. This is thriller, thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Oh, night creatures call and the dead start to dance in their masquerade. Oh, there's no escaping the jaws of the alien this time. Open wide, it's the end of your life. But try it. This is thriller, thriller night. So let me hold you tight and share a thriller, thriller. This is thriller, oh, thriller tonight. Girl, I can thrill you more than any fool would ever try. This is thriller, oh, thriller tonight. Girl, let me hold you tight inside a thriller, killer. Thriller, killer, chiller, I fulfill ya, girl, I'll be your thriller tonight. Let me be your thriller, baby.
Vous êtes à l'écoute de M l'été sur les ondes de Canal M, et on peut se le dire, c'est uniquement à Canal M que vous pouvez entendre des chansons comme celle-ci. C'était le Scott Bradley's Postmodern Jukebox. C'est toujours un exercice de se rappeler du nom de cette formation qui reprenait ici cette pièce de Michael Jackson. On aurait probablement reconnu Thriller.
Mais je tiens à dire que c'est une formation musicale qu'on doit se rappeler parce que moi, c'est une de mes préférées. Ça fait deux fois aujourd'hui que je dis ça. Jean-Sébastien, j'ai l'impression que t'es là pour moi aujourd'hui. Merci infiniment.
Il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai découvert de façon impromptue la ville de Victoriaville et quelques-uns de ses quartiers et quelques-uns de ses espaces verts. Et il s'avère qu'un de mes grands amis habite à Victoriaville et il est même guide là-bas. Et je lui ai dit, mais viens donc nous guider en studio. Benoît Raux, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Oh bien, oh ça y est, on va se vouvoyer. Oh non, on va se tutoyer, on se connaît trop. Tu savais que j'allais craquer rapidement. Et ben voilà, ça a été à la deuxième chronique.
Une émission,
et puis voilà. Ouais. Alors Benoît, aujourd'hui, Victoriaville, rappelez que c'est quand même, pas une, mais la ville la plus équipée, la mieux pensée pour les gens qui vivent à mobilité réduite.
Tout à fait. En fait, Victoriaville est devenue ville inclusive, avec bien sûr tout ce que ça comporte comme service, comme possibilité, accessibilité, etc. Et bien sûr, c'est aussi le berceau du développement durable. Mmh. Et comme parmi la plupart des villes du Québec, nous sommes la troisième à avoir, le terme exact, là, je ne sais plus, mais c'est l'indice de bonheur élevé.
Élevé,
là. Alors aujourd'hui, je pensais vous parler de culture.
Oui.
Comment ça se passe chez nous du point de vue culturel? Hein? Alors, on a, comme toutes les villes de cette importance-là, on a bien sûr nos musées, on a de magnifiques galeries d'art, mais on a aussi toutes sortes de petites affaires dont j'aimerais vous entretenir. Ça vous va?
Très bien.
Alors,
on vous suit.
La grosse pièce muséale ou la plus importante institution muséale que nous avons, c'est le musée Laurier, bien sûr. Musée Laurier, son histoire est simple. Wilfrid Laurier, qui était jeune avocat à l'époque, est venu s'installer à Victoriaville parce que, qui s'appelait Artabascaville à l'époque. L'origine vient, en fait, à partir du train qui passait dans un petit bourg qu'on a appelé Victoriaville, mais Artabasca était la ville propre, la ville importante. Donc, Wilfrid Laurier s'installe, rencontre Zoé Lafontaine qui deviendra Lady Zoé, et bien sûr, s'installe en permanence, construit une magnifique demeure dans le style tout à fait victorien, là. Pierre, boiserie extérieure, décoration un petit peu à l'italienne. Bon, et il l'habite avec sa dame jusqu'au décès de madame. Sa nièce la récupère à leur décès, et en 1929, croyez-le ou non, la maison est transférée au gouvernement du Québec à la condition que ça devienne un musée pour l'histoire de Sir Wilfrid. Donc, on a un musée quand même qui date de quelques années, là. Alors, cette maison-là abrite actuellement, pour ceux qui viendraient nous voir durant l'été, deux expositions. Une exposition permanente sur l'histoire, la politique et l'importance de Wilfrid Laurier, bien sûr, une exposition permanente. Et une deuxième qui porte le titre « Est-ce grave, docteur? » En fait, c'est la médecine, l'histoire de la médecine à la fin du 19e siècle. C'est très intéressant parce que, bon, d'une part, évidemment, les méthodes n'étaient pas tout à fait les mêmes, les méthodes de diagnostic, mais aussi les méthodes de correction, de traitement. Alors, on se retrouve avec des ustensiles, j'appelle ça ustensiles parce que ça ne pouvait pas être autre chose, mais qu'on ne voudrait pas voir s'approcher de nos corps pour l'instant. Mais c'est très intéressant. Et dans un deuxième volet, le musée Laurier a différents bâtiments, donc différents sites. Et un deuxième, c'est notre musée de l'Hôtel des Postes. On est toujours dans les limites de Victoriaville. C'est un édifice que Wilfrid Laurier, quand il était premier ministre en 1911, a fait construire parce que nous étions le chef-lieu judiciaire et donc important. Et c'est un édifice d'architecture typique du début du 20e siècle. C'est très anglais. Les vitres, les fenêtres avec arcades et tout le tralala. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une tour d'horloge, hein, mm-hmm. avec une horloge sur quatre faces, ce qui est assez exceptionnel. Et le mécanisme pour remonter l'horloge est toujours fonctionnel. Donc, les employés du musée,
vous avez fait le geste
tous les
à la
24
main.
Heures, sont obligés c'est de ça, remonter.
À la manivelle.
Exactement. Et déjà, ça attire quand même, juste ça attire beaucoup de gens, surtout les jeunes, hein, qui sont intéressés de voir comment une vieille horloge fonctionne. Alors, dans ce musée-là, il y a une exposition permanente sur les postes, mais il y a aussi, par les temps qui courent, une exposition sur le pastel. Deux étages du musée sont à voir, et je vous dirais combien j'ai été étonné de constater ce qui est possible de faire avec un pastel. Pastel sèche, bien sûr, mais aussi les pastels à l'huile et tout ça.
Oui, oui, oui.
Et fascinant. Il y a des artistes remarquables qui font de la miniature au pastel. C'est quelque chose à faire. Je continue.
Allez-y.
Avant de parler des galeries d'art.
Vas-y.
Un autre petit musée tout simple, c'est la maison-école du Ancien Chicot. OK. Alors, il y a une exposition sur la grippe espagnole.
C'est merveilleux.
Là, vous me surprenez parce que...
Oui, bon. C'est parce que je viens de lui faire signe qu'il... Non, mais prenez-en deux de plus si vous voulez.
Mais en fait,
on vous déguste, mon ami.
C'est une exposition sur la grippe espagnole parce que, petit détail de l'histoire, croyez-le ou non, en 1918, donc ça fait 100 ans cette année, la pandémie de grippe espagnole s'est déclarée. Et imaginez où? À Victoriaville.
Ah oui?
Il y avait eu un congrès eucharistique. En fait, on réunissait plein de catholiques de partout dans le monde. Il y a eu 40 000 personnes chez nous à Victoriaville, imaginez. Et c'était la fin de la guerre. Il y avait des soldats qui revenaient d'Europe. Il y a eu quelques virus qui ont été importés clandestinement. Mm-hmm. Et la température ayant été mauvaise pendant plusieurs jours, les terrains étaient inondés ou à tout le moins...
Gorgés d'eau, gorgés, oui.
Alors, les gens sont repartis avec le virus... Et à Victoriaville, on a perdu 167 personnes. Il y a eu plus de 13 500 personnes, des décès, j'entends, au Québec, et plus de 22 millions dans le monde. Et ça a l'air qu'on serait la source de ça.
Parce que ces 40 000 personnes-là étaient des personnes qui étaient exactement, et donc sont retournées chez eux après ce congrès eucharistique-là.
Ça s'est multiplié. Alors, une excellente exposition qui raconte tout ça.
C'est vraiment intéressant.
Je vous parle rapidement de deux galeries d'art qui présentent... C'est étonnant, deux galeries d'art contemporains. Deux
et
galeries
accessible.
D'art contemporains.
Et accessibles.
Je voulais vous dire, d'ailleurs, que tout ce que je vous ai dit, c'est accessible en tout temps, avec tous les services. Et même que, je devance, mais on a une série de sculptures aussi en plein air, hein, dans les jardins ou à l'extérieur. Et une série de sculptures que je pense, Clotilde, tu as vues, ce sont des oies. Et oui, une série de... Parce qu'on a, je vais vous en parler ultérieurement, mais on a au réservoir Baudet la venue à deux fois par année des oies blanches. Il y a presque 2 millions d'oies blanches qui viennent...
2 millions?
Ah oui, oui, c'est fabuleux, fabuleux. C'est pour ça que je dis, on dit souvent chez nous que le fameux lac, ben, il est blanc 3 saisons sur 4.
Ah!
Blanc des oies 2 fois, puis blanc parce qu'il est glacé l'hiver. Bon, je résume, mais ces oies sont faites avec des matériaux recyclés. Donc, vous allez trouver une oie en particulier qui est faite presque essentiellement d'ustensiles de cuisine. D'autres qui est faite, une autre qui est faite avec des pièces de voiture, etc. Mm-hmm. Ce qui m'amène à dire, nous sommes le berceau du développement durable. Et même dans l'art et dans la culture, ça se voit. Alors, oui, on est inclusif au point de vue de l'accessibilité à la culture, parce que les galeries d'art comme Atoll ou la galerie d'art Auger du Carré 150, intéressant, tiens, il y a une exposition qui s'annonce où une artiste, Gloria Volpe, va présenter une petite roulotte, du genre Westphalia, pour les nommer. Là. Bon. Oui. Elle se promène et elle y intègre des plantes vivantes, ce qui fait que la roulotte devient elle-même vivante.
Et tout ça, c'est des incontournables, mais on ne les a pas tous nommés. En plus, ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas Victoriaville, sachez que vous êtes en train de manquer quelque chose.
Et bien voilà.
On va se le dire.
Merci Manu de le préciser, parce que moi, j'ose plus le dire, parce que je l'ai tellement dit.
Moi, je ne
dit.
Connaissais absolument rien. Là, on se dit, on va aller en Gaspésie.
Mais oui.
On va aller... Non, mais voilà, Victoriaville, voilà. Surtout que c'est accessible et que c'est pour la famille. Merci infiniment, M. Roux, d'être venu nous présenter cette ville-là méconnue. Et on est content d'en savoir
ça
un petit peu
plus. Ça fait tellement
plaisir.
On parlera de récréatif la prochaine fois.
Dans 2 semaines. Merci. Voilà. Merci, Benoît.
Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. Une fois épuisée, la place sera cédée à un autre plus fort. De tous ses efforts. Du ciel.
parler handicap.
Aha.
C'est pas toujours nécessairement quelque chose avec lequel avec quoi on est à l'aise. Et c'est pas toujours juste le mot. On ne sait plus comment le dire. Handicap, mobilité réduite, et c'est ça. Mais quand on tombe dans l'historique, dans l'explicatif, dans les modèles plus psychopop pour une culture psychopop de Benoît Racette, là, ça devient... Très intéressant, Benoît.
Ah oui.
Salut!
Bonjour, merci de me présenter ainsi. Je suis content de faire popper de nouveau quelques mots. C'est ce que j'essaierai de faire aujourd'hui aussi avec...
Mais normalement, quand on pop, on se recule du micro, mais vous, vous pouvez y aller.
Moi, j'ai le droit de popper, c'est ça, hein? Ben, c'est heureux et c'est nécessaire qu'on se questionne sur comment on a expliqué, fait entendre le handicap au travers des âges, mais même au Québec, depuis les 50 dernières années, ça a énormément bougé. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous propose, en fait, en arrière là, des mots que je vais employer, il y a un super mémoire qui a été proposé par Jean-François Filiatro, théorie sociologique du handicap, donc qui a mis à jour les théories en sociologie pour expliquer le handicap, disons, des 50-60 dernières années au Québec. Rien de moins.
Rien de moins.
Rien de moins. Avant tout, là, j'ai envie de parler du modèle médical particulièrement parce qu'il existe, est encore là aujourd'hui. Quand on dit le modèle médical, là, on veut dire une espèce de paradigme, une manière de présenter les choses, une vision des choses. Et depuis 50 ans, on est censé être sorti du modèle médical, mais ce qu'il disait le modèle... Bon, on n'est pas sûr.
Mais c'est pas si vrai, finalement.
C'est pas si vrai, okay. C'est ça. Parce que, en fait, le modèle médical... Quand on parle, on s'intéresse souvent à la maladie,
oui.
On s'intéresse aux aspects très techniques, au corps qui vit le handicap, alors que la personne en situation de handicap, elle aimerait bien s'en échapper.
Dans la mesure où elle n'est pas que ça.
Elle n'est pas que ça. Et je trouve d'ailleurs que t'es un exemple sur cette question-là, Emmanuel. Très rarement, t'évoques ta situation de handicap. Et c'est heureux, mon Dieu, parce qu'on a accès à tout le reste de l'univers que tu nous proposes. Mais... En arrière du modèle du handicap, du modèle médical, il y avait aussi le modèle religieux.
Il y en a un pire.
Il y en a un pire.
On va dire comme ça.
Oui. Le modèle religieux et même de la charité.
On parle du modèle charitable, effectivement.
Exact. Le modèle charitable, en gros, là, ce qu'on se rappelle, c'est que c'était un modèle qui défendait le handicap comme une punition ou même une bénédiction. Donc, tu étais sur proche de l'enfer ou du paradis, c'est beaucoup. Et c'était basé sur la pitié. Mais ensuite, c'est mélangé au Québec, même jusque dans les années 60. Même aujourd'hui, on cultive encore un peu la pitié. Le modèle médical. Et j'avais envie de citer Parsons en 1951, qui est rapporté là, par Jean-François Filiatro. Et je vous ai proposé une traduction. Là. La personne handicapée s'en remet à des professionnels de la santé dont la responsabilité est d'atténuer...
Attention, roulement de tambour.
L'heure odieuse et indésirable situation.
Mais c'est effrayant.
C'est effrayant. Ça date de 20 ans, de 70 ans comme postulat, mais on l'entend encore aujourd'hui. Et heureusement... Dans les années 80, nous rappelle Jean-François Filiatro, il y a eu beaucoup de mouvements d'émancipation des personnes. Il y a eu des personnes en situation de handicap qui ont fini par réclamer leur autonomie, une manière différente de se présenter.
Est-ce que tu crois que les technologies sont venues aider les personnes vivant avec un handicap quelconque à être plus autonomes et donc à changer les visions, ou au contraire, ce sont les gens handicapés qui voulaient changer la vision et voulaient être plus autonomes qui ont amené les nouvelles technologies?
C'est une maudite belle question.
Je le sais.
Oui.
Et on jase, on réfléchit.
C'est très intéressant parce qu'il y a des gens même qui proposent, et c'est pas une critique, mais c'est une proposition sur ce que Jean-François pourrait écrire après. Là. Moi, je pense que dans l'avenir, ça va être intimement lié à la technologie. On parle beaucoup d'un changement de fauteuil qui nous rend parfaitement autonomes d'une manière cybernétique.
Il y a même des fauteuils qui sont à même de lever la personne qui la garde attachée, mais qui la change de position assise à debout avec une espèce de levier à même le fauteuil. Là.
C'est ça.
Donc,
on n'est pas rendu là. On n'est surtout pas rendu à l'accessibilité de ces aides-là parce que ça va coûter une fortune, puis le gouvernement lésine à payer un bout de canne une quatrième fois par année. En tout cas, je dis comme ça. Mais
ce sera nommé,
puis on en parlera plus tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70 et 80, c'est beaucoup les mouvements sociaux qui ont porté, donc les personnes en situation de handicap qui ont porté les choses. Je pense qu'on leur doit un changement de paradigme ou de vision
à ces personnes-là. Puis, il y a eu plusieurs manières de présenter. Bon, évidemment, il y a eu un modèle marxiste qui était en vogue. Après ça, il y a eu un modèle beaucoup basé sur les droits sociaux, qui était très populaire, très mobilisé aux États-Unis, mais qui disait en substance que l'obstacle principal des personnes en situation de handicap, c'était la discrimination, les attitudes discriminatoires. En fait, « The principal problem facing disabled persons », c'était les attitudes discriminatoires, dans le fond, la non-reconnaissance des droits. Puis, moi, j'ai envie de mettre en lumière un extraordinaire chercheur que ramène Jean-François Filiatreau et qui est ici au Québec, qui est Patrick Fougé-Roulas, qui est essentiel dans l'histoire des personnes en situation de handicap. Lui, il a développé le modèle qu'on appelle le processus de production du handicap, PPH. Avez-vous déjà entendu ça?
Pas jamais.
Non!
Le processus de production du handicap.
Bien là, ça veut dire que l'handicap, il se produit avec l'environnement. J'exagère, je fais ça rond, mais je vous donne un exemple.
Oui,
okay?
Qu'est-ce que ça mange en hiver, ce processus?
Vous parliez de technologie tantôt, mais on ne sait pas à quel point les lunettes ont changé, les destins. Oui. Mm-hmm. En fait, quand une personne au 15e siècle n'avait pas de lunettes et commençait à voir sa vue décliner, elle était en situation de handicap au point de ne plus pouvoir faire ses activités ou de les réapprendre, etc. Mais quand les lunettes sont arrivées puis qu'elle les pose sur son nez, elle n'est plus en situation de handicap. Comprenez-vous? Mm-hmm. C'est une manière bien simple de dire « Pardon, c'est quoi le processus de production de handicap? » C'est si on déploie un environnement qui est sans obstacle, si on offre les services adéquats, si, comme tu le disais plus tôt, cher ami, on a des technologies,
exactement.
Eh bien là, on enlève... On permet à la personne d'exécuter les activités de la vie quotidienne qu'elle exécuterait comme tous les autres citoyens et citoyennes.
Donc, il n'y aurait pas d'handicap s'il n'y aurait pas une interaction individu-environnement déficient.
Exact.
C'est ce qu'on comprend.
Exactement. Okay. Et ça, c'est dans les années 90, même plus particulièrement en 2007, le premier modèle qui a été proposé par Fougé-Roulas, ça persiste même dans le temps, même que l'OMS a agréé plus tard un modèle semblable pour expliquer le handicap. Fait que les mots, là, on trouve que ça ne sert à rien, mais là, au moins, on se donne une responsabilité sociale, en fait, pour combattre le handicap. Et, bon, évidemment, il y a eu les courants postmodernes, il en parle, et aujourd'hui, on sera arrivé à quelque chose comme... une analyse intersectionnelle, ça c'est un autre gros mot. Hein?
Tu veux dire quoi par intersectionnel?
Oui, ben c'est très proche des théories féministes, mais aussi les théories des genres, etc. On se rend compte que plus une personne a des plis de discrimination possibles, plus sa vie est compliquée. On va dire ça bien simplement comme ça. Donc si vous êtes une femme en situation d'handicap, lesbienne, immigrante...
Oula.
Vous avez un surcroît de discrimination et faut s'y attarder. Donc, il faut être à l'écoute spécialement des besoins et on définit dans le fond le handicap autrement. Donc, ça, c'est dans les dernières nouvelles. Est-ce que vous trouvez ça le fun comme parcours?
Je trouve ça tellement intéressant. Je trouve que les choses continuent de changer, par contre. Là.
Ben exactement. Et je suis super content parce qu'au début, vous nommiez presque peut-être ce qu'on pourrait voir dans l'avenir. Peut-être que les technologies, dans l'idée de l'hyper-adaptation, vont nous amener ailleurs. Moi, j'ai des amis, je pense entre autres à Nicolas Messier qui a travaillé à Mimo Québec, que tu connais bien. Lui, c'est un fan de cette idée-là. Il pense que vraiment, les technologies vont nous permettre d'abattre toutes les frontières, mais il faut peut-être attendre encore quelques décennies.
Je pense que quand les sociétés commenceront à comprendre qu'en adaptant toute chose à tout individu, on va aller chercher ces ressources-là et qu'on va mettre à profit ces gens-là pour nos communautés, pour nos sociétés, on va être vraiment gagnant-gagnant et on va avoir tout compris. Benoît Racette, merci infiniment de cette grande, grande explication.
C'est un grand plaisir.
Et je vous fais une bise, moi.
Ah!
On a reçu ce matin une nouvelle qui nous a particulièrement touchés, bien évidemment, à Canalem, parce que c'est quelqu'un dont on a appris le décès, quelqu'un qu'on connaissait bien et que vous connaissez bien, Benoît Racette. C'est la disparition à l'âge de 27 ans de Marilyn Turcotte. Turcotte, on disait, je pense.
Moi, j'ai toujours dit Turcotte. J'espère que je ne me trompais pas, mais... En fait, moi, je la connais pas autant que plein de gens que je côtoie, mais c'était quelqu'un qui brillait.
Qui brillait,
Qui avait plein de choses à proposer.
Elle était fondatrice et directrice générale de Libre et Sauvage, qui avait été créée en 2012. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, Libre et Sauvage, c'était essentiellement du monde fou, qui avait envie de créer, peut-être des gens en difficulté au départ, mais qui avait envie de créer, qui avait envie de faire de la vidéo, du dessin, de la danse, de la photo.
Mais de manière intégrée et inclusive.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'était fabuleux.
Et c'était de l'expérimentation, c'est ça.
Ouais. Et ils allaient dans tous les recoins. Ouais. En fait, j'espère qu'ils vont continuer. En fait, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Ouais. On accueille difficilement cette nouvelle-là, mais ça serait heureux que l'œuvre qu'elle a fait avec d'autres, avec des personnes qui n'étaient pas en situation d'handicap et des personnes en situation d'handicap se poursuivent. Elle avait une vision extraordinaire.
Alors voilà, elle s'appelait Marilyn Turcot et on souhaitait à Canalem lui rendre cet hommage. C'était bien la moindre des choses. Elle qui a participé à plusieurs de nos émissions, dont les Paractualités, entre autres. Mais alors on salue sa famille aussi, son conjoint Tiger Fang. C'est comme ça qu'on prononce, j'imagine. On les salue tous, on les embrasse et ça nous fait très triste aussi comme nouvelle.
Vous écoutez Aime l'été.
Alors, retour en troisième partie avec une chronique culturelle qui va nous être offerte par Maxime Despomerleau et puis une chronique littéraire avec Hélène Gauthier, bibliothécaire du SQLA.
Wrong, wrong, wrong.
Maxime, trouvez-vous que c'était une très bonne musique que ce groupe Caravan Palace pour vous amener sur le sujet du cirque dont vous allez nous parler aujourd'hui? Bonjour, Maxime.
Bonjour, absolument. J'adore Caravan Palace en plus. J'ai vu souvent en spectacle. Ils sont très, très chouettes.
Alors, le cirque?
Oui, ben, on est dans le cœur, en fait, en ce moment, du festival Montréal Complètement Cirque. Donc, un de ces nombreux festivals qu'anime Montréal au mois de juillet. C'est la 9e édition qui se poursuit jusqu'au 15 juillet. Mm-hmm. Et Montréal est reconnu internationalement comme une plateforme vraiment de création de talents en cirque, avec plusieurs compagnies majeures comme évidemment le Cirque du Soleil, Cirque Éloise, l'École nationale de cirque, qui est l'une des plus prisées au monde, et la TOHU, qui est la Cité des arts du cirque. Donc, c'est vraiment pour mettre en valeur le cirque contemporain, ce qui se fait de nouveau, ce qui se fait dans les formes hybrides également. Alors, c'est une occasion pour les Montréalais de voir ce qui se fait au niveau de la scène internationale.
Et vous commencez par quoi?
Je commence et je fais un petit retour sur les deux gros spectacles qu'il y a en ce moment à l'affiche. Le premier étant Backbone de la compagnie Gravity and Other Myths d'Australie. Les Australiens sont connus pour présenter toujours des choses assez edgy. Alors, c'est à la TOHU jusqu'au 14 juillet. Gravity and Other Myths, c'est les pros de la banquine, de l'équilibrisme et du main-à-main. Mm-hmm. Backbone, c'est la figure de contorsion qui, lorsqu'on plie le dos vers l'arrière, amène la tête sous les fesses. Donc, c'est...
Et c'est une de leurs spécialités, il faut comprendre, j'imagine.
Oui, parce que... on s'appuie même sur son torse au sol. Donc, on a vu beaucoup de ponts inversés dans ce spectacle. Beaucoup de mouvements de danse contemporaine également. On mise plus sur la poésie que sur les prouesses dans ce spectacle, à comparer à ce qu'on a déjà vu d'eux. Pour moi, les tableaux les plus réussis, c'est surtout ceux qui concentrent tout le groupe autour d'une même action. Plutôt que d'avoir plusieurs acrobaties au sol, en duo ou en trio, qui sont très réussies, mais qui créent parfois un peu la cacophonie parce qu'on ne sait pas trop où regarder. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, c'est vraiment une force lorsque le groupe est concentré ensemble sur une même action. D'ailleurs, on peut rattraper un numéro durant la rue Complètement Cirque sur la rue Saint-Denis, un peu tous les jours. Ils font une démonstration d'un de leurs tableaux. C'est soutenu par des musiciens live, des multi-instrumentistes. Vraiment, il y a des ambiances très enveloppantes, parfois même hypnotisantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ajoutent des niveaux de difficulté qui sont subtils, comme par exemple faire une pyramide humaine avec tout le monde a des sauts sur la tête. Donc, c'est impossible de voir, alors ça travaille cet équilibre. Ou de soutenir, d'avoir un poids, une grosse roche, par exemple, au centre du corps, ça modifie le centre d'équilibre des acrobates, le poids également des acrobates. Donc, ils jonglent un peu avec ces éléments-là dans le spectacle.
J'espère qu'ils ont un bon ostéopathe.
D'après moi, il y en a un qui doit les suivre en tournée.
Est-ce que vous avez vu le show Sisters?
Oui, c'était la première médiatique hier au Théâtre Outremont. C'est en présentation jusqu'au 21 juillet. Sisters, qui est une production des sœurs Dessella, est sous la direction de Gypsy Schneider, qui est l'une des directrices artistiques de la compagnie Les Sept Doigts. C'est un conte de fées avec des princesses, un prince, une forêt enchantée. Mm-hmm. Pour moi, ça s'apparente plus au théâtre corporel qu'au cirque. Visuellement, c'est très beau, c'est très réussi. C'est surtout au niveau sonore, vraiment, que le spectacle est solide. Sarah Pagé, qui est une multi-instrumentiste, joue entre autres de la harpe sur scène. Elle est magistrale. Et on entend également quelques chansons de Lassa, d'Estella. Oui. Malgré les images fortes créées par la scénographie, ça lève pas. C'est une déception de ce côté-là. Il y a beaucoup de mouvements ou de déplacements, peu de danse, pratiquement pas de numéro de cirque.
Des longueurs.
Il faut attendre William Underwood qui sauve pratiquement le spectacle. Autrement que comme accessoiriste de plateau, il fait une chorégraphie au match chinois qui est très réussie. Mais il y a quelque chose qui fait que la sauce ne lève pas.
Autrement dit, Maxime, parce que je lisais un papier aussi ce matin sur le sujet, c'est exactement ce qu'ils ont revendiqué cette année. C'était de présenter un spectacle plus théâtral que de cirque. Sauf que lorsqu'on va voir ces gens-là, on s'attend à voir des numéros de cirque. Et c'est peut-être tout simplement ça qu'a pas levé, non?
Ben, c'est une des questions que je me pose, c'est est-ce que le show a été bien casté? Est-ce que ça place justement dans un festival de cirque où l'on s'attend à voir surtout des prouesses, ou sinon, est-ce qu'il serait mieux présenté, par exemple, à Place des Arts, dans une programmation régulière? Par contre, il n'y a pas assez de danse pour être un show de danse, il n'y a pas assez de théâtre pour être un show de théâtre, il n'y a pas assez de cirque pour être un show de cirque.
Est-ce qu'on a l'impression qu'ils ont voulu plaire à tout le monde et que malheureusement, ils sont tombés entre tous? Des fois, on veut aller partout, mais on va nulle part, là.
On se le demande parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui pourraient être beaucoup mieux exploités. Ouais. On pense aux appareils ou le fil narratif qui pourrait être plus travaillé. Il y a, comme je dis, visuellement, il y a des choses très intéressantes, mais il manque quelque chose pour nous amener plus loin.
Mais c'est quand même 22 spectacles gratuits à l'extérieur et 8 en salle. Donc, si jamais il y en a un qui ne fait pas notre affaire, on a plusieurs autres choix.
Ben absolument, justement.
Alors, comme d'autres,
venir,
alors.
Oui, c'est ça, à venir, il y a Scotch and Soda de Company 2 au Théâtre Saint-Denis qui commence ce jeudi, donc jusqu'au 21 juillet. Ça se définit comme du cirque et du jazz prix Q-Sec. Donc, on y retrouve surtout des disciplines plus traditionnelles comme le trapèze, la jonglerie, la planche coréenne, etc. Donc, vraiment des numéros. Et il y a également Chute qui sera présentée à l'espace orange de l'édifice Wilder. C'est une conversation philosophique corporelle sur le thème de la chute. Donc, peu importe les figures qui vont se former, elles finissent toutes au sol. Et c'est ça l'objectif. Donc, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait beaucoup de danse contemporaine dans ce spectacle.
Et à la TEU, est-ce qu'il se passe quelque chose?
Il se passe toujours plein de choses à la TEU.
Ben oui.
Ben, entre autres, le spectacle Backbone. Il y a plusieurs spectacles qui s'enchaînent également. Il y avait un spectacle qui était pour les tout-petits, vraiment du 0 à 6 mois pour l'éveil, qui s'appelle Le Mobile. On invite les parents à y aller. On reste couché sur des coussins, donc pour que l'enfant soit confortable également. Et c'est pour l'éveil, vraiment, du bébé au cirque. Et il y a les quartiers complètement cirque également. Donc, à la TEU, ce week-end, c'est les week-ends complètement cirque, le 14 et le 15. Mais sinon, même à partir d'aujourd'hui, ce soir, soirée Saint-Léonard. Demain, on est au Théâtre Verdure du Parc La Fontaine. À Verdun, plus tard jeudi. C'est inspiré des barbecues cirques très présents en Australie. Le 13 vendredi, c'est sur l'esplanade du stade olympique qu'on se retrouve. Et le 15 juillet, il y a aussi Pointe-à-Calière complètement cirque, sous le thème de la pyramide humaine, donc avec les Castellets de Montréal. Et ben là, tu as eu... Si j'ai encore une petite minute pour en parler.
Tu peux nous parler de ton affection pour la TEU. Vas-y, Maxime.
J'adore la TEU. Je les plug tout le temps. Je les aime beaucoup. C'est un endroit qui, pour moi, est vraiment un exemple de médiation culturelle. Un endroit très accessible. Ils honorent la VATL, mais également, ils ont fait un changement cette année pour les spectacles de cirque. La personne en situation de handicap et l'accompagnateur ont chacun, en fait, 50% de rabais sur leurs billets. Wow. Donc, c'est une autre manière de rendre le cirque plus accessible. Ils agissent aussi vraiment au niveau environnemental et écologique. Ils présentent plusieurs activités liées au parc Frédéric Bach, qui est tout juste à côté, qui a été revampé, on peut dire, dans les dernières années. Et là, cette année, c'est vraiment la première année où ils l'utilisent. Il y a des promenades astronomiques pour se familiariser avec l'observation des étoiles. Il y a plusieurs ateliers pour, par exemple, apprendre à comment faire du savon, apprendre à comment faire un abri à insectes, comment faire de l'électricité. Donc, ça s'adresse à toute la famille. Il y a des ateliers de tai chi, des parcours comptés avec toujours des guides. Alors, c'est pratiquement chaque jour, il y a des activités à la TEU. Je vous invite fortement à découvrir cet endroit. Camper dans Saint-Michel.
C'est toujours un régal de vous entendre nous parler de tout cela, Maxime. On va vous laisser retourner, vous éclater sur toutes les pistes de Montréal et de la région pour nous en parler un petit peu plus tard. Une nouvelle fois à l'émission. Maxime Despomerleau, merci beaucoup et bonne fin de journée.
Toujours un plaisir. À bientôt. Thank you.
Et ça s'en va comme ça, cette espèce de fanfare. Souvenir de M. Fellini et de ce film 8,5 sur une musique de Nino Rota, comme quasiment presque tous les films de Fellini. Je me tourne vers Hélène Gauthier. Bonjour Hélène.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien Hélène. Je rappelle que vous êtes bibliothécaire au SQLA, le service québécois du livre adapté. Autrement dit, des livres pleins les oreilles, vous. Vous en écoutez beaucoup, vous savez lesquels sortent et lesquels sont disponibles et vous venez nous en parler.
Oui, donc aujourd'hui, je vais commencer avec le roman Tsunami de Michel Jean. Michel Jean, c'est un écrivain, c'est un journaliste d'enquête et aussi a été chef d'antenne, quand même assez occupé. Et c'est son 10e livre, Tsunami.
Ici, au Québec?
Oui, absolument.
OK,
oui.
D'accord.
Je ne pourrais pas vous dire à quel canal, mais
c'est sa biographie. Non, parce que Michel Jean, ça aurait pu être un Français,
absolument,
un Suisse.
Absolument.
Non, c'est un Québécois.
Mais oui.
OK.
Dans ce roman, on y retrouve le journaliste Jean-Nicolas Legendre, donc un personnage qu'on avait déjà rencontré dans un de ses romans précédents, le roman « Un monde mort comme la lune » qui est aussi disponible au SQLA. Donc, en décembre 2004, il y a un tsunami qui a frappé le Sri Lanka, un pays qui est déjà déchiré par la guerre civile qui dure depuis 20 ans, donc ça va déjà pas très bien. Donc, on l'envoie au Sri Lanka pour couvrir les conséquences de la catastrophe. Donc, il se rend dans le nord. Le nord du Sri Lanka, c'est contrôlé par les Tigres Tamouls qui s'opposent au gouvernement qui est majoritairement composé de Sénégalais. Donc, le personnage est confronté à ces circonstances tragiques. Lui aussi se remet d'un drame, je ne vendrai pas le punch, qui s'est passé entre le roman précédent et ce nouveau roman.
Okay.
Donc, l'auteur, lui, a vécu de telles situations. Il a été en reportage au Sri Lanka, en Irak, en Haïti. Donc, il est vraiment en mesure de bien parler, de bien présenter le contexte. Puis, il voulait vraiment utiliser un maximum de faits réels à travers lesquels il va intégrer son histoire et ses personnages. Puis c'est aussi une étude du deuil, comment passer à autre chose, et des fois se noyer dans des nouvelles circonstances pour oublier ce qu'on a laissé derrière.
Ça va vous passionner, ça. Je me tourne vers Emmanuel parce que on rentre dans votre domaine, on rentre dans ton domaine, là, c'est ça.
Elle semble intéressée. Donc ça, c'est Tsunami de Michel Jean. Deuxième roman dont je vous parle aujourd'hui, Adieu Bogota.
Je suis contente parce que je l'ai dans ma bibliothèque, moi, en imprimé, mais donc il existe aussi. Et voilà, puis j'arrive jamais à lire, il y a toujours quelque chose. Alors parlez-moi, qu'est-ce que je rate?
Adieu Bogota de Simone Schwartz-Barth, un processus d'écriture assez intéressant. Donc Simone Schwartz-Barth, c'est une romancière guadeloupéenne qui est commandeuse, apparemment c'est le féminin, de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Et elle a écrit elle-même en 1972 « Pluie et vent sur Télumé Miracle ». Donc ça, c'est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature caribéenne. Son mari est l'écrivain André Schwartz-Barth et lui a gagné le prix Goncourt en 1959, mais il est décédé il y a 11 ans. Mais ce roman, Adieu Bogota, il est crédité à Simone et à son mari André, qui est décédé, comme je l'ai dit. Donc, pourquoi? C'est qu'elle utilise des notes et des manuscrits qu'a laissés son mari après sa mort. Et c'est le deuxième roman qu'elle écrit de cette façon. Le premier, c'était L'ancêtre en solitude, qui est paru en 2015. Donc, c'est un roman, finalement, à quatre mains. Elle utilise ce que son mari a laissé derrière lui. Elle-même, elle appelle ce processus comme une polyphonie.
Et on y traite de quoi, alors, dans ce roman-là?
Donc, c'est une femme d'origine martiniquaise qui arrive à Paris au début des années 30, travaille dans une maison de retraite dans la capitale. Elle y rencontre une vieille dame qui devient son amie. Donc, elle parle, elles échangent, elles philosophient. Et cette Marie d'origine martiniquaise, elle écrit. Et avant de mourir, la vieille dame la convainc d'écrire son histoire à elle. Donc, elle lui raconte son histoire qui sera ensuite rapportée par Marie. Donc, on couvre encore tout un itinéraire. C'est dans la première moitié du 20e siècle. On part de la Martinique, on va dans le Far West aux États-Unis.
Oh, wow.
On passe en Guyane, Bogota, évidemment, et on passe par New York. Donc, on voyage beaucoup. Et pour finir, et là, je me rends compte vraiment, j'ai un thème aujourd'hui, j'ai le thème du deuil un peu, mais bon, il fait beau dehors.
Ben, écoutez, on a appris une triste nouvelle, nous, ici, ce matin, alors peut-être que ça va avec.
Ça va nous permettre de le gérer.
Exactement, ça va nous permettre de le gérer.
C'est ça.
De le surpasser, dirais-je.
Donc, deux livres qui ne sont pas des nouveaux livres, mais je voulais vous les donner parce qu'ils sont écrits par mon écrivaine préférée, Joan Didion. Donc, ces deux livres, c'est « L'année de l'enfancée magique » et « Le bleu de la nuit ». Joan Didion, qui est née en 1934, une écrivaine américaine extrêmement importante. Donc,
qu'est-ce qui fait que c'est votre préféré? Moi, c'est une question de curiosité.
Oui, parce que honnêtement, oui. Je ne la connais pas. Oui. Je m'excuse.
Qu'est-ce que vous aimez tant?
Dommage. C'est une grande écrivaine américaine qui est souvent oubliée. C'est une journaliste. Donc, elle écrit beaucoup sur les années 70 en Californie. Ouais. Son écriture très, très, très précise. C'est une femme qui est très dans l'observation. C'est pas une femme qui vit, on dirait, qui vit ses expériences dans son corps, mais qui est toujours en train de regarder les autres. Et avec son écriture, est vraiment capable de vraiment peindre l'ambiance. On a vraiment l'impression d'y être. Donc, en 2003, elle avait déjà, elle a 72 ans, 2003, elle avait déjà écrit la majorité de son œuvre. Et de nulle part, du jour au lendemain, son mari est décédé. D'une crise cardiaque. Donc, elle a écrit ce qui est maintenant considéré son livre le plus connu, son plus grand livre, « L'année de la pensée magique », sur son deuil de son mari, à l'âge de 72 ans, quand même assez tard. Puis, elle faisait la promotion de ce film, de ce livre, pardon, et sa fille est décédée pendant la promotion du livre. Donc, en l'espace de 3 ans, ça se passe dans sa vie. Et là, elle a écrit « Le bleu de la nuit » sur le décès de sa fille, du fait qu'elle se retrouve seule dans la 70aine, on va dire.
Comme vous nous en parlez, il faut nous donner le goût encore plus de la lire. Vous avez un extrait pour
nous. Donc, un extrait de « L'année de la pensée magique ».
Bon.
« Quand il m'arrivera quelque chose, disait-il souvent. Il ne t'arrivera rien, disais-je. Mais au cas où. Au cas où, continuait-il. » Dans ce cas, je ne devrais pas déménager dans un appartement plus petit, par exemple. Dans ce cas, je serais entourée de gens. Dans ce cas, je devrais prévoir à manger pour ces gens. Dans ce cas, je me remarierais dans l'année. « Tu ne comprends pas, » disais-je. Non, il ne comprenait pas. Moi non plus, d'ailleurs. Nous étions tous deux incapables d'envisager la réalité de la vie l'un sans l'autre. Il n'est pas question ici de ce genre d'histoire où la mort du mari ou de l'épouse sert de générique de fin, laissant entrevoir une nouvelle vie, de catalyseurs permettant de découvrir que, réplique la plupart du temps attribuée dans ce genre de récit à l'enfant plein de sagesse du conjoint endeuillé, on peut aimer plus d'une seule personne. Évidemment qu'on peut, mais le mariage, c'est autre chose. Le mariage, c'est la mémoire. Le mariage, c'est le temps. Le mariage, ce n'est pas seulement le temps, c'est aussi, paradoxalement, le déni du temps. Pendant 40 ans, je me suis vue à travers le regard de John. Je n'ai pas vieilli. Cette année, pour la première fois depuis mes 29 ans, je me suis vue à travers le regard des autres. Pour la première fois, j'ai compris que j'avais de moi-même l'image d'une personne beaucoup plus jeune. Nous sommes d'imparfaits mortels, ainsi fait que lorsque nous pleurons nos pertes, c'est aussi pour le meilleur et pour le pire nous-mêmes que nous pleurons. Tels que nous étions, tels que nous ne sommes plus, tels qu'un jour nous ne serons plus du tout.
Nous sommes d'imparfaits mortels. Mais vous faites une chroniqueuse pas mal parfaite, par exemple, mon ami,
merci
pour une imparfaite mortelle, vraiment. Merci beaucoup, Hélène Gauthier, encore une fois, d'être venue nous voir. Et très touchant, moi, Madame Didion, je voudrais, parce que vous le prononcez tellement bien à l'anglaise, mais je vais peut-être l'épeler pour les amis qui nous écoutent. Didion, c'est D-I-D-I-O-N, voilà. Merci, Hélène.
Merci,
bonne fin de journée.
Vous savez, au-delà de la canicule, parfois on se réveille la nuit. Selon la médecine traditionnelle chinoise, il y a des raisons qui peuvent expliquer pourquoi on se réveille à la même heure.
Hein?
Chaque nuit, chaque période de la nuit est associée à une émotion ou à un organe. Et je vous propose de faire une petite décortication de votre nuit, à savoir si vous vous réveillez souvent dans cette période-ci, voir où vous pouvez regarder un peu plus près. Entre 11h, donc 23h et 1h du matin, la vésicule biliaire est associée à cette période de temps et elle sert, elle, à emmagasiner l'énergie absorbée dans la journée et la redistribuer. Donc, si ça fonctionne mal, c'est que ça stocke trop de mauvaise graisse et ça entraîne une fatigue. C'est ce que vous devez regarder si jamais vous avez des éveils entre 23h et 1h du matin. Entre 1h du matin et 3h du matin, le foie. Et on doit être regardé ici. Il élimine les toxines et purifie l'organisme également. On parle de la colère. Si vous avez de la colère refoulée, ça se pourrait que vous vous réveillez souvent entre 1 et 3. Entre 3 et 5 heures du matin. Ce sont les poumons, donc des éveils fréquents peuvent être reliés à un problème de respiration, d'oxygénation de l'organisme, mais aussi, symbolisme, d'avoir un potentiel poids psychologique qui nous empêche de respirer. Le poumon est également associé à la tristesse. Et entre 5 heures et 7 heures, le gros intestin. Donc, si jamais vous avez des problèmes d'éveil, eh bien, vous pourrez trouver une nouvelle façon avec la médecine traditionnelle chinoise de le traiter.
Est-ce que je peux vous appeler?
Je vous donnerai mon numéro de téléphone. Non,
même la nuit?
Toujours, Clotilde, toujours quand même.
Voilà, mes amis, ainsi s'achève cette émission que j'ai particulièrement appréciée. Quelle belle personne, encore une fois, autour de la table. Je pense à Benoît Roux, je pense à Guilin.
On est privilégiés, Levasseur. On est vraiment ces gens-là, ce qu'ils ont à dire, et de les rencontrer, vraiment.
Oui, c'est vrai que, bon, s'il y avait une fenêtre, ce serait encore mieux. Mais on va faire avec ce qu'on a. Merci aussi, Hélène Gauthier. Et en régie, Jean-Sébastien Laliberté. Salut, Manu.